Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, il est 17h, nous sommes le mercredi 10 juin 2026 et on se retrouve en direct. On aime bien le direct, on en parlait tout à l'heure avec des amis qui étaient dans le studio. 1h30 de partage de livres jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Aujourd'hui, Frédéric, Dominique, Elisabeth et Francis. Avant d'aborder des livres, je voudrais vous annoncer une tournée de discussion à travers toute la France autour des prisonniers et prisonnières anarchistes et antifascistes en Russie. C'est un collectif, Fires for Freedom, et puis d'anciens prisonniers, prisonnières politiques qui vont participer à ces rencontres. Alors, il y en a toute une liste. Je vous invite à retrouver les lieux de réunion et les horaires et les jours sur le site du Monde Libertaire. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que le samedi 13 juin, c'est-à-dire là, samedi prochain, nous aurons une rencontre de 15h à 17h à la librairie Publico avec ces personnes. On va pouvoir voir la situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ils ont supporté. Je vais vous dire que en préparant la rencontre, c'est assez effrayant. Et puis, on va aussi avoir la projection d'un film. Donc vraiment, si vous pouvez venir à cette rencontre, c'est samedi de 15h à 17h à Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Et nous sommes au métro Oberkampf ou éventuellement République, si vous le souhaitez. La rencontre sera suivie, mais c'est pas en lien avec nos amis russes, elle sera suivie d'un concert qui, aussi à Publico. Allez, on va démarrer sans tarder cette émission que nous pourrions appeler duo. En effet, nous allons pour chaque thème présenter deux livres sur la question qui s'y rapporte. Bon. Voilà. Alors, première partie. Donc, c'est la partie, comme d'habitude, pour alimenter le débat. Eh ben, si nous parlions de l'extrême droite, pour mieux les connaître, les combattre, au lieu de psalmodier nos passaranes. C'est bien joli, nos passaranes. Mais d'abord, ils sont passés une fois, deux fois, trois fois, d'ailleurs, ça dépend des pays. Ils repassent encore. Mais là, c'est, en France, c'est de montrer le danger, et voilà un livre qui dénonce l'extrême danger du phénomène. Bon, c'est un titre important, « Extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale », publié aux éditions du Commun par 5 contributeurs, tous militants, tous spécialistes de cette mouvance. Et c'est un livre qui est coédité avec le média indépendant Street Press. Je cite « Alors que la nébuleuse radicale est en pleine ébullition, ce livre documente la structuration et les stratégies de cette mouvance qui gravite autour du Rassemblement national, et il est l'aboutissement de plusieurs années de travail sur le terrain et en source ouverte, c'est-à-dire que on les connaît et les auteurs vont travailler sur ces sources. Je cite encore « Si nous recensons sont les auteurs qui parlent, 320 sections locales liées à 128 organisations, ce décompte reste nécessairement partiel. Pourquoi ? Face à cette réalité grandissante, la réalité et la réponse, elle, reste défaillante. Les parquets peinent à se saisir de ces dossiers. D'ailleurs, en ce moment, on a l'impression qu'ils peinent pour beaucoup à saisir tout dossier, quel qu'il soit. Et la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur, accessoirement pour ceux qui ne connaissent pas, n'a pas pu opposer autre chose que des dissolutions ponctuelles à cette lame de fond. En effet, il y a une lame de fond des groupuscules d'extrême droite. Ils ne sont pas 40 000, 200 000, 300 000, non, mais en nombre d'adhérents par groupe, c'est des groupuscules. Il y a un point de départ et tout est dans le titre de la première contribution. Je cite encore, le Rassemblement national, maison commune des groupuscules d'extrême droite. Oui. Avec en chapeau, aux portes du pouvoir, le RN s'apprête à les ouvrir en grand aux militants radicaux que nous présentons dans ce livre. Et depuis 1972, le Front National, le papy du RN, met en pratique le compromis nationaliste inspiré de la doctrine maurrassienne. Accessoirement pour ceux qui... Fin de citation. Accessoirement pour ceux qui ne le savent pas, l'expression « Rassemblement national » était une expression pétainiste. Le RN et son allié désormais l'UDR, le mouvement de Ciotti, ont pioché dans toutes les familles de l'extrême droite extra-parlementaire. Et même si le RN lave plus blanc, entre guillemets, il n'empêche que 250 brebis galeuses se sont glissées dans ces listes aux dernières élections municipales. Et on en a encore d'autres là. Il y a de l'extrême droite, il y a des propos racistes, antisémites, xénophobes, tout ce que vous voulez, quoi. C'est l'extrême droite, quoi. Alors, comment les connaître et comment les repérer? Et l'ouvrage contient la liste des groupes, une fiche avec le logo, une présentation synthétique, de sinistres faits notables, des personnalités connues et des éléments pour en savoir plus, soit des sites internet, soit des livres. Ils sont regroupés en identitaires, nationalistes, révolutionnaires. Et oui, ils sont révolutionnaires, sauf que c'est la révolution nationale, c'est celle de Pétain. Les catholiques intégristes, des monarchistes et des trucs un peu bizarres, des confusionnistes. Attention, certains militants intègrent plusieurs groupes au nom plutôt baroque. Vous avez Argos, la Cocarde, Argos, c'est le, on s'y retrouver, la Cocarde, l'Oriflamme, Division Martel, Academia Christina. Certains se cachent aussi derrière des cultures locales, comme Palatine, ou encore le Parti National Breton. D'autres adoptent des revendications populistes. Et il en est ainsi de la coordination rurale qui regroupe 15 000 adhérents. À peu près du même nombre de militants, on va retrouver la fraternité Saint-Pilice, qui se réfugie derrière le triptyque Dieu, famille, patrie. Bon, là, ça ressemble, là aussi, il y a du pétainisme dans tout ça. Et cette sensibilité religieuse se retrouve au collège lycée sous contrat qu'on appelle Notre-Dame d'Orvault, près d'Angers. Pourquoi je dis sous contrat? C'est parce que, à partir du moment où, dans ce lycée-collège, on y enseigne les matières dites de la République, eh bien, ils sont financés par les collectivités territoriales, car ils sont sous contrat d'association aux missions de service public. On pourra revenir sur cette confusion, mais bon, c'est une réalité. Méfions-nous aussi des confusionnistes pratiquant une stratégie d'hybridation entre marqueurs de gauche et extrême droite, créant un flou et une droitisation des espaces publics dans un sinistre rouge-brun. Oui, c'est bon. Alors vous retrouverez dans ce livre aussi les héritiers du GUD, de Bastion Social, dynamisé par le C9M, du nom des organisateurs de la marche d'hommage à Sébastien Desieux, militant nationaliste, décédé le 9 mai 1994 au terme d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre. Et n'oublions pas, baroque aussi, les Allobroges de Bourgoin, dont faisait partie un certain Quentin Desrocq. Ces groupes créent des centres de formation, de réflexion. Dans la logique du Grèce, le Grèce c'était un mouvement d'extrême droite dit intellectuel, de la revue Éléments. Bon, là aussi, une revue d'extrême droite, dite intellectuelle. Relevons aussi l'Institut Iliade. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, dans un journal du soir, un quotidien du soir, cet institut faisait parler de lui. Et est fort utile pour les militants. L'ouvrage dont je vous parle dresse plusieurs cartes régionales situant les zones d'influence de chacun de ces mouvements, et personne ne peut ignorer où elle se trouve. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, très pratique. Donc je vous donne les références. Alors c'est un ouvrage collectif, hein, je ne vais pas vous donner les noms de toutes les personnes. Extrême danger, connaître et contrer l'extrême droite radicale, aux éditions du commun, coédition Street Press, en 2026. À lire, que vous pouvez évidemment trouver à Publico. Nous y sommes passés tout à l'heure avec Fred et on a trouvé le bouquin. Allez-y, parce que il semblerait qu'à chaque fois qu'on parle d'un livre, et ça nous fait plutôt plaisir, eh bien, vous êtes quelques-uns à vous y déplacer, et puis les stocks disparaissent. Et puis, autre question, puisque hein, on est dans la logique du duo. qui porte les espoirs de cette sensibilité? Eh ben, Bardella, bien sûr. Un livre sur cette génération? Ah là là. Oui. On l'a déjà mentionné, ce livre, dans notre émission Le Cri du Peuple, là, Fred, hein, c'est bien ça. Et ben là, on va recommencer, là, parce que je trouve que c'est bien de faire le lien. Alors, Bardella par-ci, Bardella par-là, les médias nous sursaturent d'articles, de reportages sur ce triste cire. Ah, vous allez vous dire, bah oui, vous aussi, dans cette émission, vous le faites à l'instant. Oui, mais je voudrais montrer comment inexorablement une génération a pu émerger et supplanter des vagues de contestation de gauche. Et c'est Marie-Lou Magal et Nicolas Massol qui nous en livrent une présentation enlevée quant au style et précise sur le déroulement dans « Enquête sur la génération Bardella » publiée chez Folio Actuel. Inédit d'ailleurs. Soyons clairs, ces personnages de droite et d'extrême droite se connaissent, fréquentent les mêmes boîtes de nuit ou bars, se retrouvent dans des organisations transversales, ils se pratiquent. Et au-delà des oppositions, ce qui les réunit, c'est bien la conquête du pouvoir au profit de leurs idéaux extrémistes. Et la barrière entre le RN et la droite classique, ça y est, c'est fait, elle a volé en éclats. Il n'y a que la gauche institutionnelle qui peut encore faire semblant d'être surprise, ou alors c'est parce qu'elle n'a pas vu passer les trains. Et nous le savons depuis longtemps. Notamment ceux d'entre nous qui ont fréquenté les facs de droit et ont subi les menaces, les violences de ces groupuscules. Moi, je me rappelle du GUD. Le RN est désormais toiletté, rajeuni, et malgré les propos de certains de leurs candidats, ça marche. Il attire, et comme je disais pour le précédent livre, le no passaran, ça suffit pas. Ils se retrouvent par bande, la bande XY dans des beuveries. Il y a pas forcément des réunions de réflexion de très très haut niveau, mais ils montent des coups comme l'affaire de la mosquée de Poitiers. Vous trouverez les éléments. Et les médias relaient complaisamment. Ça fait vendre, hein. Non. Surtout des médias comme BFM TV, CNews, etc. Et le manifeste de génération identitaire traduit bien le rejet d'une société et de ses composantes avec violence. Ça, c'est vraiment ce qui caractérise ces mouvements, c'est la violence. Et les réseaux se constituent. Tenez, la Manif pour tous fut un creuset du rassemblement de toutes ces tendances, même si certains y ont été en toute naïveté, mais il n'empêche que la machine était en marche, là aussi, hein, faut pas croire. Nous assistons dans l'ouvrage à la montée en puissance de Jordan Bardella. En parallèle, le développement d'une presse d'extrême droite avec Valeurs Actuelles, L'Incorrect, CNews, l'Empire Bolloré, la récupération de Fayard, vous rendez compte, Fayard qui était une grande maison d'édition d'histoire, de référence et qui est devenu ce que c'est aujourd'hui. Un symbole dans le cœur du quartier latin, face à la fontaine Médicis, cher à Kessel et à d'autres. L'existence pérenne de la nouvelle librairie, c'est le titre, au lieu de l'extrême droite. Là, vous passez devant, vous avez les mémoires de Le Pen, etc. Avant, ça aurait duré 15 jours, ça aurait été saccagé. Aujourd'hui, ça passe. Et nous passons, justement, par l'échec temporaire de Marine Le Pen. C'est pas grave, ils attendent leur tour. C'est raté avec Zemmour, mais les idées se banalisent. Alors ils créent un institut de formation politique, l'IFP, qui ressemble étrangement à l'IEP, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose pour le moment. Ils gagnent des villes de plus en plus importantes, des intercommunalités, Depuis 2022, ils ont multiplié les postes à l'Assemblée nationale. Et de vous à moi, à défaut de Marine Le Pen, bah, ils ont un plan B. B comme, bah, comme Bardella. Je rappelle les références. Marie-Lou Magal et Nicolas Massol, enquête sur la génération Bardella aux éditions Gallimard, collection Folio Actuelle, un inédit, donc de 2026. Alors, bon, comme c'est pas forcément très drôle, ces deux bouquins, on a essayé de trouver un truc un peu plus amusant. Et on va passer, il répond au nom de Bardella. C'est les goguettes qui vont interpréter une de leurs chansons assez amusante. C'est parti!
Bardella! 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 Ouh, Bardella! Ouh, Bardella! Ouh, Bardella! Ouh, Bardella! Il répond au nom de Bardella. Sur les cheveux, il met de la gomine. Il a un joli sourire comme ça. On dirait une publicité pour Signal. Il répond au nom de Bardella. C'est le king de TikTok, c'est le boss d'Insta. Pour s'entraîner à paraître sympa, viens qu'au coaching, c'est lui à côté un bras. FNORN, c'est du pareil au même. De Jean-Marie à Marine, toujours la même rengaine. Hier ils étaient au nid, maintenant ils font des petits. D'Éric Ciotti à Retailleau. Galvanisé, propulsé par Bolloré. C'est une bande organisée qu'il faudrait canaliser. Qui braque les caisses de l'UE tout en critiquant l'UE. Faut croire qu'il nous mène en bateau. Mais quand je le vois flamber comme ça, j'aimerais retirer la chaise sur laquelle il s'assoit. Rassure-toi, il répond au nom de Bardella. Sur CNews ou sur Europe 1, c'est le roi. Qu'est-ce qui s'est passé dans les médias pour qu'on en soit arrivé à ce point-là? La réforme des retraites, pour lui c'était prise de tête. D'abord il veut l'abroger, puis il veut plus l'abroger. Puis il veut la reporter et finalement l'abroger. Je crois qu'ils sont dedans son cerveau. Socialement c'est l'arnaque, dès que le beau vernis craque. On voit que dans extrême droite, y'a extrême et puis y'a droite. Limiter le RSA, privatiser les médias. Je crois pas que ça aide le populo. Mais quand je le vois chez Cultura, j'ai comme une envie de vomir qui monte en moi. Répond au nom de Bardella. On aimerait lui dire faut que tu partes de là. Tu fais que mettre le bordel là. À part pour les jeunes, bon, y'a pas besoin de toi. Il répond au nom de Bardella. Mais bien sûr que non, il n'est pas candidat. Tant que Marine survit en tout cas. Mais reposez-lui la question dans 6 mois. Il part en TGV, rencontrer les vrais Français qui sont pas déconnectés et surtout pas trop basanés. De Fréjus à Perpignan, on ne voit que lui. Mais où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Sur les plateaux télé, il récite son couplet. On le voit qu'il se fait à bugger dès qu'il se fait bousculer. C'est qu'on l'a plutôt habitué à se faire dorloter de ses news jusqu'à LCI. Mais quand je le vois se planter comme ça, je me dis qu'on est quand même tombé bien bas. Il répond au nom de Bardella. Un jour il aime Trump, le lendemain il aime pas. Cherche les brebis galeuses dans ses candidats. Y'a encore un petit peu de boulot je crois. Il répond au nom de Bardella. Bon moi je crois que je vais m'arrêter là.
Alors avec ces deux précédents livres, on est dans une actualité récente, on pourrait rajouter encore d'autres choses. Mais là, Fred va nous proposer deux ouvrages de Simone Veil, la philosophe bien évidemment, consacrés l'un au monde du travail et l'autre aux partis politiques. Et vous constaterez que ces thèmes ne peuvent que nous préoccuper et nous interroger. Alors, je rappelle simplement les titres, mais Fred développera. La vie et la grève des ouvrières métallo, et puis un autre livre, note sur la suppression générale des partis politiques. Et on embrayera sans transition avec une arabesque de Claude Debussy, interprétée par Maria Llorapillares. Fred.
Alors bonsoir à toutes et tous, auditrices et auditeurs. Vous avez connaissance déjà des livres et un petit peu du contenu, mais disons un petit peu de la thématique. Alors, note sur la vie et la grève des ouvrières métallos de Simone Veil. C'est sorti chez Folio, et puis ensuite, note sur la suppression générale des partis politiques, ce qui est très intéressant pour moi, au point de vue anarchisme. C'est quelque chose qui me fait rêver. Alors, cette semaine, je vais vous présenter ces deux livres de la même autrice, à savoir Simone Veil. La philosophe est militante et non pas la ministre. Souvent, on a vu l'année dernière des candidates et candidats du bac se tromper. C'est vrai que, disons, au point de vue de la phonétique, c'est quand même très proche, on peut quand même un peu les excuser. Alors pourquoi deux livres cette semaine? Premièrement parce qu'ils me semblent complémentaires. Aussi parce qu'ils sont courts, ce sont deux formats courts, certes courts, mais précis, incisifs, sans détour, allant directement au vécu de Simone Veil, qui bien avant les années 1960 fera l'expérience de se faire embaucher en usine dans les années 1930, juste un peu avant et pendant les grèves de 1936, alors que rien ne l'obligeait. En quelque sorte, une sorte d'établi, un peu comme Linhart, avec son fameux livre dans les années 1960, et tellement bien décrite par lui-même, dans son livre éponyme, écrit, comme je vous ai dit, dans les 60s, comme on dit. Simone Veil voulait connaître la vie en usine, décrire et écrire, pour rendre compte. En bonne analyste, elle décrit les gestes, ces gestes forcément répétitifs, presque à l'infini, les réglages des machines, les cadences, les interactions, ses pertes de repères, et le temps, et de sa façon dont il s'écoule. Avec ce texte, j'ai eu des images qui me sont venues à l'esprit, tellement le texte est précis. Je pense avoir touché un petit peu, quelque peu à l'âpreté, la dureté du travail en usine. Il y a aussi les relations avec les collègues, la sous-hiérarchie, la grande hiérarchie et le patronat. Là aussi, c'est complexe, tendu, imprévisible, angoissant quand on est en bas d'échelle. On peut se faire congédier à tout moment, pour des raisons qu'elle décrit. De la solidarité entre les collègues, c'est difficile, non pas par pur égoïsme, mais pour des raisons pratiques, vous comprendrez en lisant. Puis, dans un espace ouvert, au vu de la hiérarchie et du bruit ambiant, comment faire? Quand j'ai lu ces livres, ayant moi-même travaillé en usine, non pas à la chaîne, j'ai eu cette réflexion. Tout ceci existe encore ici en France et partout dans le monde où les chaînes de fabrication tournent jour et nuit, tous les jours de la semaine. Cela n'a pas changé. Non, ce qu'elle décrit dans les années 1930, pratiquement 100 ans après, c'est toujours pareil. Triste constat. Mais soudain, en 1936, au printemps 1936, la grève survient. Elle l'a décrit. Lisez comment elle l'a ressenti avec ses collègues. C'est une parenthèse qui tranche. Et pourquoi écrit-elle sur la suppression générale des partis politiques? C'est l'autre livre. Sympathisante anarchiste, voire plus, car elle s'engage dans la colonne Durruti pendant la Révolution espagnole qui débute en juillet 1936, il y a de cela 90 ans. Alors pour elle, les partis, le suivisme sans esprit critique des militantes et militants des partis politiques, la malhonnêteté des dirigeants des partis, elle le connaît, elle l'a vu. Elle en décrit les mécanismes, les ressorts, les illogismes. Elle qui n'a jamais adhéré à aucun parti, elle est honnête dans cette critique. Une quarantaine de pages à lire d'un seul tenant pour suivre la logique de sa pensée. Agnostique puis mystique durant sa vie, vous en trouverez des idées dans ce livre. À vous de juger, cela dit personnellement en laissant ces quelques tout petits passages de mysticisme, j'ai trouvé ce livre à mettre entre toutes les mains, de tout public, tellement je l'ai trouvé irréfutable. Une logique efficace, c'est bien dommage qu'il ne soit pas étudié en classe, mais cela se comprend, plus personne ne voterait. Simone Veil, qui a eu une vie très courte, malheureusement, mais qui nous a laissé des textes, des livres, un parcours d'engagement. Mais quel plaisir à les lire, et encore tellement d'actualité dans ses idées. Alors je vous redonne les références de ces deux livres. La vie et la grève des ouvrières métallos, de Simone Veil, Folio mars 2026, et note de la, sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Vous le trouverez chez Alia octobre 2024, mais je crois que c'est épuisé, mais vous le retrouvez dans d'autres collections. Alors si ces livres ne sont pas en rayon, et comme l'a dit si bien, Francis tout à l'heure, vous pourrez toujours ou les trouver à Publico, et s'ils ne sont pas en vente à Publico, envoyez un mail si vous êtes loin de Paris, ou alors passez au comptoir, et vous pourrez les commander aussi. N'hésitez pas, si ce n'est pas en rayon, vous pouvez toujours commander. Et bien maintenant, nous passons à la musique.
Venons-en à une femme qui a consacré sa vie à protéger les femmes. Là aussi, deux livres présentés par Dominique. Et à la fin de cette présentation, il s'agit de Jacqueline Manicon, hein, à la fin de cette présentation, eh bien, nous aurons une chanson que je trouve assez émouvante de Pierre Perret, « Elle attend son petit ». Et on envoie Dominique puisque c'est un enregistrement.
Alors, René de Pestre vient d'obtenir le prix Goncourt de la poésie à 100 ans pour l'ensemble de son œuvre. Rien n'est perdu hein, pour, à nos âges.
100 ans ?
Oui. Alors, il est né le 29 août 1924 à Jacmel.
On a encore un souci. Donc, on va être obligé de passer à un autre thème. Je suis désolé, c'est un problème encore technique. Et là, je voudrais aborder un thème difficile, celui du bagne. Là aussi, deux livres. Un premier livre, celui d'Emmanuel Rossi, la Guyane française. C'est l'échec d'un modèle colonialiste pénitentiaire. C'est sorti chez l'Harmattan en 2026. Ah ouais, elle est belle, hein, la République, avec son cortège d'injustices et d'odieuses mesures plus attentatoires les unes que les autres à la dignité des hommes et des femmes qui y croupissent. Tenez, Emmanuel Rossi nous ouvre les portes du bagne de Cayenne. Dans nos émissions, nous évoquons souvent la Nouvelle-Calédonie en raison de la présence des communards, mais il faut savoir que certaines fédérées, des femmes, sont transportées en Guyane après leur condamnation. On va retrouver Marceline Expilly, Marguerite Guindet, Joséphine Marchais, Marie-Jeanne Moussou, Léontine Suétain. Bref, on en a comme ça toute une série. Et voilà au moins plusieurs raisons pour nous intéresser à cette institution. Mais sachant aussi qu'il faudra quand même attendre 1953 pour que les 132 derniers bagnards rejoignent l'Europe, alors que l'échec de ce modèle de colonialisme et d'emprisonnement était connu depuis Napoléon III. Emmanuel Rossi le constate. L'échec de la colonisation de la Guyane par ses camps de détention n'est ni une opinion, ni une hypothèse de travail, mais c'est un fait bien établi étoffée par des chiffres, des témoignages et par toute une liste de documents publics et privés qui dénonçaient les dérives de ce projet fantasque. Là, la société bourgeoise, bien pensante, entendait se débarrasser des éléments les plus dangereux de la société, une forme d'exutoire aux tensions sociales du XIXe siècle et en parallèle à la construction d'un empire colonial. Eh bien oui, parce qu'il faudra quand même aborder une question importante, parce que la question de l'esclavage, son abolition date de 1848, mais ça pose le problème de la main-d'œuvre, la force de travail disponible. D'autant que les conditions de vie étaient très difficiles. Coup de chance, la France dispose là d'une prison à ciel ouvert, entourée par la jungle, l'océan et ses requins, et les mangroves. Les îles, celles du salut et du diable, où séjourna Dreyfus, constituaient des prisons dans la prison. Des bagnes de Marseille et de Toulon partaient les condamnés pour la Nouvelle-Calédonie. Les prisons militaires les expédiaient aussi à Biribi, de sinistre mémoire. Et là, je renvoie à un livre de Dominique Khalifa, Biribi, qui était paru aux éditions Tempus en 2016, ou encore celui d'Albert Londres. Dante n'avait rien vu, Biribi, Dante, celui qui a écrit notamment L'Enfer de Dante. Donc le livre d'Albert Londres est paru aux éditions Arléa en poche en 2024. Revenons-en à la Guyane. Emmanuel Rossi décrit le fonctionnement, le statut des transportés, des relégués, les conditions de vie affligeantes des femmes, la sauvagerie des surveillants. Et comment survivre dans cette jungle ? Par la débrouille. Les évasions sont très difficiles. La justice arbitraire est gare à celui qui se fait prendre. Au fil des pages, l'auteur reprend quelques grandes affaires, évidemment Alfred Dreyfus, mais aussi Paul Roussanque, on va en parler dans un instant, Henri Charrière, Guillaume Seznec, Eugène Dieudonné, et là je renvoie à un livre que nous avions commenté dans notre émission, toujours d'Albert Londres, L'homme qui s'évade, aux éditions Arléa en 2024. En effet, la presse dénonce cette situation, l'image pitoyable de la France, d'une France qui, soi-disant celle des droits de l'homme, a du boulot, hein. Mais le chemin sera long. Et pendant toute la Troisième République, on regarde ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, le bagne est ignoré, et là il y aurait beaucoup de morts, hein. Et ce sera simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1953, que nous verrons une évolution. Alors Emmanuel Rossi porte un jugement sévère sur cette indignité. Le colonialisme pénitentiaire, je cite, était un leurre et un échec flagrant, maintenu en vie pour pouvoir continuer à utiliser une décharge sociale bien pratique. Le mot est très dur, mais je renvoie sur cette expression, je renvoie au livre « Surveiller et punir » je pense qu'on est nombreux à l'avoir lu, et c'est tout à fait éclairant. Alors je rappelle le titre, Emmanuel Rossi, La Guyane française, l'échec d'un modèle de colonialisme pénitentiaire aux éditions L'Harmattan en 2026. Et nous allons écouter un extrait d'une chanson de Jacques Higelin, Cayenne, c'est fini. Paul. Second problème technique, tout est, puisqu'on avait dit qu'on travaillerait par duo, là on va aborder un livre qui m'a vraiment beaucoup plu aussi. De toute façon, les livres qui ne nous plaisent pas, on n'en parle pas. On va passer à la vie d'un homme étonnant, Paul Roussan, que certains auditeurs, auditrices ont rencontré. Eh oui, il est décédé il y a quelques années, mais évidemment, mais certains l'ont rencontré. Un sacré personnage, Paul Roussanque. Sacré parcours de vie, dont une grande partie au bagne de Guyane, dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'instant. Un anarchiste, un incorrigible rebelle, d'où son surnom, l'Inco. né en 1885. Il connaît la détention en 1903, 5 ans de prison. 5 ans de prison pour avoir lancé, encore jeune, un quignon de pain à un juge qui le condamnait pour vagabondage. Ah, faut dire que très jeune, il quitte le foyer familial de Saint-Gilles-du-Gard et part au hasard des routes comme cheminot. Il lira la presse anarchiste. Sa condamnation le conduit à la prison de Clairvaux. Puis à les BADDAF, bataillons d'Afrique, sur place et non sans courage. Roussang multiplie les gestes de rejet du système militaire, déchirant par exemple sa tenue. Oh là là, vous vous rendez compte, on déchire une tenue militaire. De fait, il multiplie aussi les jours de tôle. Et pour finir, il est condamné à 20 ans de travaux forcés, à la dégradation militaire et à 15 ans d'interdiction de séjour. Direction Cayenne. Il échappe à la folie de Biribi, connue, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la sauvagerie des gardiens. Et la biographie de Paul Roussang, que nous propose Jean-Marc Delpech, reprend ce parcours jusqu'à son suicide à Bayonne en 1949, s'appuyant sur une riche documentation, un travail d'archives de premier ordre, et le lecteur découvrira le fonctionnement de la justice pour les pauvres, celui de Biribi quand même, parce qu'il va en parler, et puis le bagne de façon plus générale. L'incorrigible, l'inco, comme on le surnommait, désigné sous le matricule 37664, traverse l'Atlantique à bord du bateau La Loire. Voilà qui nous permet d'être au premier rang des conditions de la traversée. L'arrivée, la vie au bagne, le travail, la spécificité des îles, dont celle du salut et du diable dont j'ai parlé. Roussang est en compagnie d'Eugène Dieudonné. Vous savez, Eugène Dieudonné, qui avait été accusé de faire partie de la bande à Bono et d'avoir tué quelques personnes, eh bien, en fait, c'était faux. Et ou encore de quelqu'un que vous avez déjà entendu parler, Marius Jacob, on en reparlera dans une autre émission. Et ce dernier, Marius Jacob, écrira de lui, Roussang n'est pas un homme dangereux, il ne l'a jamais été, je l'ai coudoyé pendant 17 ans et jamais je ne l'ai vu se battre, voire se quereller avec un autre co-détenu. On est dans un autre monde, là. Pour nous, on a du mal à concevoir cela. Et l'administration du bagne se méfiait des anarchistes déserteurs. Bah oui, parce qu'il y a un problème chez les anars. Ils savent écrire, argumenter, se défendre par des courriers adressés à la hiérarchie. Et à noter que, dans ce système de non-droit, personne ne peut interdire à un détenu de se plaindre. Alors il en use et en abuse, Roussang, de ce droit. Il écrit bien, il dénonce l'hygiène, la faim, les détournements et autres prévarications. Aucune hésitation dans ses propos, il insulte les gardiens, déteste les Corses. Il multipliera les jours de prison, 7 ans environ, après une amnistie. Certes, il défend sa cause, mais aussi celle des autres. Et vous lirez ces pages étonnantes d'énergie et de courage. Ouais, l'inco. Un jour, il rencontre Albert Londres, le reporter dont on a parlé, celui qui entend porter, selon son expression, la plume dans la plaie. Et le bagne est une plaie béante dans les institutions de la République. Il écoute Roussang et il apporte sa vision. Il rapporte dans la presse la triste situation de Roussang. Et la mobilisation en faveur de l'INCO est engagée par la Ligue des droits de l'homme, le Secours Rouge International, le PCF, le Grand Orient de France, les anarchistes comme à Saint-Gilles-du-Gard. Marius Jacob écrit dans le Réfractaire et a noté que le PC entend instrumentaliser l'affaire Roussang, multipliant les réunions publiques et les manifestations exigeant sa libération et son retour. Il rejette, un grand classique à l'époque, tout ce qui n'est pas parti communiste français. Remarquez, nous, il n'y a pas longtemps, on a vécu encore ça, il y en a qui en sont restés à ce stade-là chez les bolchos. Un vrai rouleau compresseur, il n'y a que le PC qui serait capable de défendre Roussang. Eh bien, il arrive enfin. L'INCO débarque à Saint-Nazaire en 1932. il est pris en main par les communistes, l'exhibant de meetings en déplacement à travers le pays. Il fera même le voyage de Moscou. Mais là, là, il commence à critiquer l'URSS. Alors ça va plus du tout. Dans le journal anarchiste Terre Libre, il écrit « C'est un fait que la liberté n'existe pas en Russie. L'individu est un automate dont tous les gestes sont ordonnés d'avance. » Oh là là ! Crime de lèse-communisme. Abandonné comme une vieille marionnette usée par le PC, il retrouve sa sensibilité anarchiste. Les compagnons sont parfois surpris, voire déçus par son attitude, mais un de ses amis, Jean Jourdan, comprenait que son long séjour au bagne le rendait incapable de se réadapter à une vie normale, comme le rapporte d'ailleurs André Prodomo, dont nous avons déjà présenté des ouvrages. Il reprend, Roussang, son parcours de cheminot, le train, la prison. Arrêté, il écrit. Pendant la guerre, il est interné par Vichy, notamment à Sisteron. En 1948, il publie dans Les Allobroges « Mes tombeaux » et « Famélique », épuisé par la vie et les maladies. Sa vie s'arrête le 3 août 1949 à Bayonne. Pour Jean-Marc Delpech, je cite, il était un homme dans toute sa complexité, un homme conscient et politisé, épris des principes de liberté et de justice sociale, refusant tous les pouvoirs et prêt à en assumer toutes les conséquences. Ouais, un homme courageux, hein. Enfin, vous lirez et vous comprendrez pourquoi je dis un homme courageux. Jean-Marc Delpech, Paul Roussang, Une vie au bagne, aux éditions Imago, c'est sorti là en 2026, et j'espère que nous allons pouvoir écouter la chanson de Léo Ferré, Merde à Vauban.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À la ville m'attend ma mignonne mère, dans 20 ans pour elle, je ne serai plus personne, merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard. Ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant pour elle. J'ai manqué la belle, merde à Vauban. Elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban.
Merde à Vauban.
Bagnard, le temps qui tant s'allonge dans l'île de Ré avec ses poux. Le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux? Où est sa bouche avec le vent? On dirait parfois que je les touche. Merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir. et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant moi. Je chanterai d'en dessous mes planches, merde à Vauban.
Et si... Alors, hein, merde à Vauban, hein, on est bien d'accord. Et si nous parlions de cette Russie, un temps dénommée URSS ? Un livre que j'ai trouvé passionnant, là aussi, un livre décapant sur le système stalinien. On pourrait dire la frénésie de l'accusation. Vous allez voir, enfin, vous allez écouter, s'il vous plaît. Un titre des plus sobres, l'accusé. Une couverture avec le portrait de Staline. Et Alexandre Vesberg-Sibulski nous entraîne sur près de 600 pages dans les méandres de la police politique et de la justice, entre guillemets, de l'URSS stalinienne. Reprenons la dédicace. Le despotisme sombrera, la liberté renaîtra au pays des soviets, les bannis reviendront des camps de l'océan glacial arctique. Mes camarades, les hommes de la Grande Purge ne seront pas de cela. Et c'est à leur souvenir que je dédie ce livre. Le lecteur pourrait considérer que tout est dit dans ces quelques mots. La préface d'Arthur Koestler fait évidemment écho au livre d'Arthur Koestler, Le Zéro et l'Infini, réédité chez Kalman Levy, on en a parlé il y a quelque temps, mais aussi à celui de Jacques Benac, La Terreur sous Lénine. Ce dernier, lui, est publié aux éditions de L'Échappée, et je l'ai encore vu récemment, enfin, cet après-midi, à Publico. Mais là, ce qui va distinguer l'accusé des deux autres, c'est sa force, son intensité du témoignage. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un reportage. Alexandre, il décrit ce qu'il a vécu. Il devait rechercher en lui-même des crimes qu'il n'avait pas commis. Accusé d'appartenir au bloc boukhariniste, de Boukharine, pour ceux qui... peut-être une... se rappelle plus très bien qui est ce pauvre malheureux Boukharine qui sera tué, évidemment. Il devait assassiner Staline. Ça, c'est l'accusation qu'on porte. Il devait faire sauter des usines à Kharkov et bien d'autres actes délirants. Mais Alexandre, il réussit à tenir et à défaut de le faire disparaître physiquement, les responsables des isolateurs politiques, entre guillemets, s'en débarrassèrent. Nous entrons dans la grande purge, la tchiska. Des hommes, des femmes sont victimes d'accusations fallacieuses. On incarcère en masse et chacun se rappelle des grands procès. Ah, en 37, Zinoviev, Kamenev, Radek, en 38, Boukharine. Tout cela étant des vieux compagnons de Lénine. Alors bon, nous on va pas... c'est des bonnes choses, hein. Mais enfin, la manière dont ils sont éliminés, c'est hallucinant. Et dans la foulée, on arrête les opposants. Alors les anarchistes, les trotskistes, les mencheviks, les jeunes, des individus au sein du parti, une frénésie de l'arrestation, faut faire du chiffre. Et, je cite, « Ils venaient de perdre leur liberté parce que 30 ans auparavant, on les avait vus dans des formations révolutionnaires » qui n'était pas la petite organisation bolchevique. Ben oui, parce que faut jamais oublier que au moment de la Révolution, le parti bolchevique n'était pas le parti majoritaire. Il y avait d'autres partis qui étaient bien plus importants, dont les mencheviks. Bon. Je continue la citation. Ils avaient aimé la liberté et peut-être l'aimaient-ils au fond de leur cœur. Du moins, le dictateur pouvait-il le redouter ? Alors, le despotisme stalinien n'avait nul besoin de combattants de la liberté, il fallait les écarter, on les écarta. Et puis, tout le monde pouvait y passer, la censure était permanente, on livrera même des Allemands communistes au régime nazi, vous vous rendez compte ? Alors lui, Alexandre, il dresse une analyse implacable de la société soviétique. Pourtant, il y croyait à cette lumière qui se levait à l'Est. Autrichien, il intègre cette société, offrant ses compétences scientifiques et techniques à la patrie du communisme. Étrange, un étranger. Il sera sur la liste des suspects. arrêté, perquisitionné, interrogé. Vous lirez les méthodes spéciales perverses du NKVD pour faire avouer l'inavouable, car les faits, bah, évidemment, n'existent pas. Mais les coupables doivent les inventer. Bah, il ne fallait aussi parler à personne un mot à la maladroit. Et la mécanique de la dénonciation est en route. Et quelle pitié pour ces pauvres dénonciateurs, et surtout les co-détenus qui seront de toute façon éliminés plus tard. Il tient, Alexandre. Sous la violence des mots, des gestes, de l'emprisonnement, le délire des accusations. Je cite encore, « Les expériences des deux derniers mois avaient durci ma résistance et je me faisais aucune illusion sur l'appareil de l'État. » Ça, ça me plaît bien, cette formule. « En résistant aux interrogatoires, il avait le sentiment de mener une lutte politique. Le socialisme, dit-il, ne vaincrait que lorsque cet appareil aurait sauté. » Le récit adopte un ton haletant. Va-t-il avouer ? Ah ben, je vous laisse découvrir cette procédure hors de toute humanité. Qu'est-ce qui va se passer ? Ben, y a un constat étonnant, voilà que des tchéquistes sont emprisonnés. Est-ce que le vent tournerait ? Et début décembre 38, les détenus apprennent que le responsable de la purge, Yegov, est relevé de ses fonctions de commissaire du peuple aux affaires intérieures. Il sera éliminé, car il avait fini de jouer son rôle. Et grâce à de nombreuses interventions internationales, comme un appel d'Einstein, un autre du couple Joliot-Curie, Alexandre Weisberg-Sibulski est libéré et renvoyé en Occident. Notons que d'autres détenus, en raison de leur nationalité européenne, ont pu quitter cette folie, et je souligne le cas de l'un d'entre eux, recevant Alexandre chez lui en Grande-Bretagne. Et dans leur unique échange, il refuse de dénoncer le régime stalinien. Pour lui, ce serait rejeter tous ses espoirs, ses idéaux. En effet, les effets d'une dictature, même après la mort du dictateur, après la mort de Staline, c'est ça qui est encore pire. C'est lorsque les victimes refusent de dénoncer le système. Alexandre Weisberg-Sibulski, L'accusé, aux éditions Les Belles Lettres, un livre passionnant. Et puis, en parallèle, on va peut-être aborder quelque chose d'un peu, enfin une thématique un peu plus souple, des poésies. En parallèle, les lettres à Esnine. Bah, étonnant ouvrage que ce recueil de poèmes de Jim Harrison, décédé en 2016, à Sergueï Esnine, mort en 1925, officiellement par suicide. Mais vous savez, à cette époque-là, c'était facile hein, de dire bah, « il s'est suicidé ». Bon, Jim Harrison est un écrivain connu pour ses écrits célébrant la nature et explorant les thèmes de la condition humaine. Son œuvre est en effet marquée par l'environnement rural, comme dans « Légendes d'automne » ou « d'Alva ». Dans son recueil de poèmes, Théorie et pratique des rivières, il interroge la nature, la solitude, la mortalité. Esnine, lui, c'est un poète russe fasciné par la révolution d'octobre. Il se suicide à 30 ans. Après d'un demi-siècle de distance, ils échangent, si je puis dire, et Jim Harrison lui rend hommage dans ses lettres, publiées aux Belles Lettres. Le texte est bilingue, américain-français. Un extrait. Voici donc une chanson sur le nœud coulant d'Esnine. Comme ça, ça vous permet de voir comment il s'est suicidé. Qui ne rimait à rien, mais a fait son boulot, comme on dit chez moi, où il n'y a rien que de la neige. Mais je suis resté sous ton balcon à Saint-Pétersbourg. Oui, Saint-Pétersbourg, touriste fou, au cœur débordant de tant de rien qu'il voulait imploser. Je suis fasciné par cette poésie mêlant la vie d'Esnine et l'actualité de celle d'Harrison. Au-delà du texte, le KGB, Staline, Brejnev, le temps de l'URSS nous paraît déjà loin de l'histoire. Mais nous rentrons dans l'intimité des deux poètes. Et Harrison lui parle comme à un ami, des propos de la quotidienneté. C'est étonnant, hein, à tant d'années l'écart. Cher ami, je cite, il a plu longtemps, et dru après une semaine torride. Et à mon réveil, le monde était de nouveau vert et feuillu, où tout était neuf comme une averse tiède après une séance de cinéma. Et après, des poèmes numérotés succèdent des poèmes titres. Les titres eux-mêmes sont poèmes. Vous verrez, enfin vous lirez, moi je ne donne pas tout, hein, c'est à vous de découvrir ce recueil. Une dernière phrase. Toute âme banale savait que tu avais consenti à la mort, seul blasphème possible. Et je t'écris comme un frère demeuré, moins courageux, peu désireux de taquiner ces fantômes avec qui tu dormis fidèlement avant qu'ils ne te chassent. Vous avez 3 heures à commenter. Jim Harrison, Lettre à Esnin, aux éditions Les Belles Lettres, et je vous propose d'écouter une troïka de Tchaïkovski. Eh bien, continuons dans des temps de poésie et de plus grande douceur dans les mots, et nous allons pouvoir écouter l'intervention de Dominique qui rend hommage à un grand poète, René de Pestre. C'est tout de suite Dominique, et après je présenterai quelques petits livres d'une collection chez Folio. Dominique.
Alors, René de Pestre vient d'obtenir le prix Goncourt de la poésie à 100 ans pour l'ensemble de son œuvre. Rien n'est perdu hein, pour, à nos âges.
À 100 ans ?
Oui. Alors, il est né le 29 août 1924 à Jacmel, à Haïti. C'est un grand poète, romancier, essayiste franco-haïtien. Il a publié en 1947 son premier recueil. Alors, c'est un activiste politique. Il doit quitter Haïti après l'arrivée au pouvoir d'un régime militaire. Il s'installe à Paris et suit des cours à la Sorbonne. Et il rejoint Cuba en 1959 à la demande de son ami Che Guevara. Et il soutient le nouveau régime de Fidel Castro. Puis, déçu par l'orientation de la révolution, notamment après l'affaire du poète cubain Héberto Padilla, en 1971, René Despestre décide de quitter l'île en 1978. Il part en Hongrie avec sa femme native de ce pays, puis à Prague, mais il se fait expulser. Parce que il est aussi très critique sur les régimes communistes.
Ah bah alors, il ne peut pas s'en sortir.
Non.
C'est bien, c'est un homme bien, les critiques sur les régimes communistes.
Alors c'est un ami d'Edouard Glissant qui a créé la notion de créolité développée plus tard par Raphaël Confiant. Il croise aussi la route de Léopold Senghor et il entame une longue relation d'amitié avec Aimé Césaire. Très proche des mouvements de la décolonisation, il va être aussi expulsé du territoire français. Alors, sa carrière va ensuite décoller. C'est un grand poète de langue française. Il n'a cessé de chanter la beauté et le malheur des Caraïbes, où la vie est particulièrement dure pour les hommes. Donc, il rend hommage très souvent aux Caraïbes.
Mais dit-il alors, attends, il est expulsé de partout.
La France. Il défend aussi la culture européenne. Il adore Gide, il adore Stefan Zweig. Et d'ailleurs, il va abandonner les thèmes politiques pour se consacrer à l'érotisme. Ses derniers poèmes sont très érotiques. Mais je veux signaler quand même son dernier recueil de 2005, appelé « Non-assistance à un poète en danger ». Il revient sur la politique en rendant hommage à Toussaint Louverture et en parlant de son île, du folklore vaudou et de la situation politique qui n'est toujours pas meilleure qu'avant. Et il y parle magnifiquement de la vocation difficile du poète, celui qui est sans concession, qui garde son intégrité face au régime politique, et qu'il soit de droite ou de gauche. Il renvoie fascisme et communisme dans les cordes. Il défend ses principes, et d'ailleurs il est un peu plus mitigé sur... il n'est pas pour la négritude radicale. Il défend la créolité, mais il ne va pas suivre la radicalité de la négritude. D'ailleurs, il dit « Je ne suis pas un poète noir, je suis un poète ». Dans les années 80, il s'installe à Lézignan-Corbeil, Corbière, pour répondre à ton...
Oui, c'est dans le sud de la France. Oui.
Et son roman « Adriana, dans tous mes rêves » reçoit le prix Renaudot en 1988. Et le fonds René Despestre, des manuscrits, les photos, est conservé à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges. Si tu me permets, Francis, je voudrais lire deux poèmes.
Allons-y.
Alors, un poème sur Haïti. Haïti à la dérive. Voici mon pays garni de dents et de pointes, pays barbelé de pieds en cap, monde noir de la rage et du rire amer des Haïtiens. Haïti sans dimanche au bout de ses peines, le grand malheur à dompter, volcan endormi sans réveil prévu à l'horloge de ses cendres.
Ouais.
Et je vais vous lire maintenant un poème sur le rôle du poète. Et ça s'appelle « À perte de vue, un homme de poésie ».
Très bien.
J'ai cessé d'être un poète noir, sur le qui-vive, à la porte de la maison des Amériques. J'ai quitté le foyer deux fois natal. Mes rêves en morceaux tiennent dans un mouchoir. Je regarde dans les yeux mes jours élargir un nouveau ciel de poète en moi. Je fais mes adieux à tout ce qui est mort, sur pied dans ma vie. Je mets à mort la foi et l'espérance qui ont failli truquer mon art de vivre. Je voyage désormais à la belle étoile des mots d'Alexandre Dumas père. Mon voyage est un enfant du pardon. S'étant trompé de chemin de croix, mon cheval innocent s'éloigne comme un voilier remis à neuf pour l'aventure océane. Ma tête grise a poussé dans les hauteurs des mots en pleine forme qui firent la pluie et le beau temps au jardin de la jeune Madame Colette. Vive le Dieu émerveillé d'une langue française, aussi ronde en chair et en soleil que la courbe au lit de la femme en état de poésie. Vive les petits matins maternels de la langue française. Ils me font des signes de frères tout en haut des mots bien créoles d'Aimé Césaire. Vive la prose à monsieur d'André Gide. J'ai sa fraîche aurore à la gorge. J'ai les mots frais du français de France. Je m'imagine fraîcheur du soir, taillée dans la saison des îles pour couvrir le parcours saharien du siècle. Au fond du panier d'années d'exil, où mûrissent mes travaux et mes jours, très loin du désert cubain qui pipait les dés du fond de mon âme, voici un sang et un horizon d'homme libre, criblé de rivières et de rêves en cru. Voici la charrue des mots à donner en vrac à la bonne et fraîche illumination d'autrui. En prose et en poésie, voici la pirogue qu'il faut pour descendre en chantant les tout derniers rapides du XXe siècle.
Eh bien, un très beau poème pour une émission consacrée au livre. Merci.
Alors toujours en parallèle et en restant dans un monde de poésie, de douceur, eh bien une série de petits livres d'une collection de chez Folio, la collection Sagesse Verte. Bah, on pourrait dire que tout porte sur l'écoute de la nature. Périodiquement, nous présentons des ouvrages qui nous font songer au son des mots. Vous savez, c'est une de nos rubriques. Et aujourd'hui, trois livres sont sur mon bureau, face à mon jardin, au moment où j'écris cette chronique. Ils évoquent la nature, cette force qui suscite l'admiration des poètes, et ce, depuis l'Antiquité. Et la collection Folio Sagesse Verte nous propose d'évoquer la montagne d'Élisée Reclus, la Provence avec Jean Giono, et les champs, le travail de la terre avec Virgile, le poète de l'Antiquité. Je relève les yeux et je ressens ce que ces auteurs nous relatent. Eh bien oui, oui. Reclus, on le connaît bien, hein, dans notre émission, on l'apprécie, son personnage, ses idées, son style. En couverture de ce petit livre, des arbres, des pins. Et son texte est extrait de l'histoire d'une montagne. Nous reconnaissons cette géographie sensible. Il arrive de la ville, difficilement supportable, Reclus, à une cabane de berger, et déjà une aération de la pensée. Et puis, il s'élève en parcourant les différents étages de cette montagne, et ses observations montrent qu'il pratique la marche. Oui, 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 ça c'est... Mon pas devient plus allègre, mon regard plus assuré. Je m'arrêtais pour aspirer avec volupté l'air pur descendu de la montagne. Il marche pour échapper à ses souvenirs, ses soucis, et jouir des impressions du milieu. Belle approche de la randonnée. Ouais. Il a le sens du détail, la mousse jaune ouverte sur un rocher. Goûtons aussi la richesse du vocabulaire, celle de l'image, celle de l'enseignement par la poésie des mots, les leçons de choses de notre enfance. Et nous montons, découvrons des fossiles, des minéraux, des rochers fantastiques. Oui, oui, je le ressens à chaque fois, ça, dans mes marches. Mais les risques sont là aussi, les avalanches, la crainte pour l'avenir de cette nature et de l'espèce humaine. Et puis nous redescendons comme dans une randonnée, on a fait une boucle, hein, nous redescendons, nous retrouvons les montagnes de résineux, bah, d'où la couverture, puis de feuillus, les pâturages, d'où le titre de l'ouvrage « Les forêts et les pâturages » d'Élisée Reclus chez Folio Sagesse Verte. Avec Giono, allez, amusons-nous du titre du fascicule « L'homme qui écrivait les arbres ». Bah, évidemment, composé d'extraits de Provence, un recueil d'articles que Giono avait publié dans différentes revues et qui est réédité chez Folio. Mais à mon avis, il faut le lire dans l'intégralité pour ceux qui aiment la Provence. Évidemment, nous devinons le clin d'œil à la célébrissime nouvelle « L'homme qui plantait des arbres ». Et là, nous sommes en Haute-Provence. Le climat est rude sur ces hautes terres et il présente ses amis les arbres et les oiseaux, les pouillots siffleurs, les fauvettes, les verdiers, les gros becs, les cizerins, tous ces chanteurs animant le silence de la nature. Et vous les devinez. Bah oui, ils sont autour de Manosque, dans la vallée de la Durance, la montagne de Lure. Il marche lui aussi. Il nous présente cette vie rurale, urbaine, dans les bourgs, et puis le terrible hiver 56, qui gela à mort, vous rendez compte, plus de 2 500 000 oliviers. Il a les gestes d'espoir pour ses propres arbres en vain, un choc pour des familles dont c'était la seule ressource, Il reste des silhouettes nues, présentes depuis des siècles, peut-être même depuis l'Antiquité. Eh bien, justement, l'Antiquité. Ben, retrouvons Virgile avec le bonheur des champs. Orné du pampre de la vigne, composé des livres 1 et 2 des Géorgiques. Il faut remercier le traducteur Frédéric Boyer pour rendre vivants ces vers. Il faut nous remettre dans le contexte de cette antiquité. Les dieux sont mobilisés. Tiens, Minerve. Ben Minerve a inventé, la déesse Minerve a inventé l'olivier. L'homme travaille la terre dans ses textes virgiliens. Tenez le début du printemps. Je cite, « Printemps neuf, quand fond l'eau glacée des montagnes blanches, le vent défait le sol poudreux, la charrue déjà plantée, le taureau commence pour moi à gémir et le soc râpé par le sillon à reluire. » Bon, là vous avez l'impression que vous y êtes là. De belles images et je pense à mes soirées de lycéen à tenter de traduire ces vers. C'est quelque chose, hein. Virgile évoque des arbres comme les ormeaux, les arbouses, c'est la Méditerranée, les tilleuls, et une réflexion sur le choix de l'arbre et les qualités de son bois. Il nous apprend à lire le ciel, les étoiles, la lune, le soleil. Nous retrouvons les saisons, l'automne et la pluie, la sagesse du fond des âges mise en vers. Non, 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 dit-il, non. Toute terre ne peut tout porter. À chaque arbre, sa patrie. Eh oui, je suis assez d'accord, ça. Vous ne pouvez pas planter n'importe quel arbre, n'importe où. Nous terminons notre voyage avec ces auteurs. Une dernière citation de Virgile. Mais assez. Nous avons parcouru d'immenses espaces. Il faut détacher les encolures fumantes de nos chevaux. Trois livres dont je vous rappelle les références, Élisée Reclus, Les forêts et les pâturages, Jean Giono, L'homme qui écrivait les arbres, Virgile, Le bonheur des champs, trois petits livres aux éditions, alors chez Gallimard, collection Folio en 2026. Tenez, écoutons rapidement un prélude en mi mineur de Frédéric Chopin. Terminons notre émission de duo par deux romans présentés par Elisabeth, qui va bientôt nous revenir du fin fond des États-Unis. Alors nous l'écoutons sans transition entre les deux commentaires enregistrés. C'est parti.
Bonjour chez Elisabeth. Action, alors aujourd'hui, vous préparez vos plus grands barbecues à petit prix. De la vaisselle aux indispensables pour le barbecue, nous avons tout.
De Lublin à New York, le journal de Rivke Zilberg.
Oui, et ce journal, il commence par une image très forte. Le père de l'héroïne ne vit plus dans sa maison. Il vit maintenant dans l'étable de leur propriété libre, avec la vache Krasvili. C'est l'une des images qui traverse de Lublin à New York, le journal donc de Rivke Silberg, celui d'une jeune fille juive arrivée à New York à la veille de la guerre. Elle s'appelle Rivke Silberg. Elle vient de Lublin, en Pologne. Comme beaucoup de juifs d'Europe orientale de cette époque, elle a quitté son pays à un moment où l'avenir devenait très incertain pour les juifs. Et ce texte, c'est son journal. Le récit d'une jeune femme de 20 ans qui découvre l'Amérique tout en restant hantée par ce qui se passe dans son pays d'origine. Autour d'elle, les jeunes filles sont pomponnées, ongles vernis, coiffures à la dernière mode, chaussures assorties à la robe. Elle n'a qu'une robe. Pas de chaussures vraiment assorties. À la place de cela, elle a ses deux nattes. Quelque chose d'ancien venu d'ailleurs, mais qui lui va si bien. Et pourtant, rien de tout cela ne l'embarrasse. Elle observe ce monde nouveau sans en avoir encore les codes. Et c'est précisément cela qui lui permet de le voir. Elle va d'abord s'installer chez sa tante et son oncle. Sa position dès le départ est fragile. Elle n'est ni vraiment une invitée, ni tout à fait un membre de la famille. Le fils de la maison laisse ses chaussures au pied de son lit pour qu'elle les cire. La domestique qui travaillait dans la maison cesse de venir et certaines tâches lui reviennent naturellement. Quant à sa cousine Selma, elle n'apprécie guère sa présence. Son fiancé regarde parfois la jeune réfugiée avec un peu trop d'insistance. Finalement, l'oncle de Rivke lui parle franchement. Il lui dit combien il l'apprécie, mais il est aussi le père de Selma. Et pour éviter des tensions dans la maison, il lui demande de trouver un autre logement. La décision lui coûte, mais il n'estime de pas avoir d'autre choix. Et pendant ce temps, à Lublin, une autre réalité continue d'exister. Le père de Rivke ne vit plus dans la maison. Il vit maintenant dans l'étable, avec la vache Krasulier. Rivke part donc habiter chez une blanchisseuse juive qui, avec une grande générosité, lui prête une pièce où dormir. Lorsque Rivke trouve un travail et commence à gagner 10 dollars par semaine, elle insiste pour payer 2 dollars de loyer à sa logeuse. La blanchisseuse exclame « On n'a jamais vu ça en Amérique, refusez l'argent qu'on vous donne !» À l'usine où Rivke travaille, les ouvrières font subir à toute nouvelle employée un bizutage. Pas parce qu'elle est réfugiée, pas parce qu'elle vient de Lublin, parce que c'est comme ça ici, avec toutes les nouvelles. Elle le subit sans comprendre encore que c'est une tradition. C'est cela aussi découvrir l'Amérique, se retrouver prise dans des rites dont on ignore même qu'ils en sont. Comme pour la plupart des immigrants, Rivke doit recommencer sa vie à zéro. Les métiers exercés en Europe ne comptent plus. Un jour, elle croise l'un de ses anciens professeurs. Lui, qui enseignait autrefois, passe maintenant ses journées à frotter des couverts, les ongles devenus tout noirs. Lui qui les avait autrefois si soignés. Trouver un emploi, c'est si difficile. Mais qu'elle fasse la queue ou fourre d'un endroit à l'autre, une pensée ne la quitte pas, celle de sa ville natale. Car Lublin n'est pas une ville ordinaire, c'était l'un des hauts lieux de la vie juive d'Europe orientale. Une ville où on vivait, où on étudiait, où on parlait yiddish dans les rues. Lorsque Rivke écrit ses pages à New York, la guerre vient de commencer et tout cela est en train de disparaître. Elle pense à son père resté là-bas. Leur maison leur a été retirée. Il vit dans une étable avec la vache Krasuli. Elle se demande s'il n'a pas froid. Elle imagine sa vie dans cette étable. Un soir, elle porte dans ses cheveux une fleur porte-bonheur. Dans la tradition, cela signifie qu'une femme va se marier. On plaisante autour d'elle. On lui demande si elle veut se marier. Elle répond en riant. Les autres rient aussi. Et soudain, son prétendant américain lui dit « Dans ce cas, sois ma femme !» Tout le monde applaudit. Il y a pourtant un élément qui complique cette scène. Dans son pays d'origine, Rivke a laissé un fiancé qui continue de lui écrire. Ces lettres introduisent une tension avec Red, qui préférerait voir ce lien avec le passé disparaître à jamais. Elle se trouve ainsi entre deux présences, le fiancé d'avant et Red. Elle n'oublie pas l'un, mais c'est auprès de l'autre qu'elle trouve un soutien. Dans son journal, elle écrit alors qu'elle avait le cœur serré, qu'elle regrettait d'avoir mis cette fleur dans ses cheveux. Il y a toujours l'étable et le père et la vache gravelier. Dans les dernières pages du livre, elle porte la bague de fiançailles offerte par Red. Elle constate qu'à New York circulera désormais une certaine Ray Levitt, tandis que Rivka Zilberg reste lié à Lublin.
En fait, c'était un truc
l'une avance dans le Nouveau Monde, et des l'autre n'a pas disparu.
Et
pendant que sa vie change à New York, l'image continue de la poursuivre.
On devrait d'ailleurs de temps en temps
celle de son père, vivant dans une étable avec la vache Crasulier. Le journal se termine alors par une question très simple. Est-ce ainsi que les hommes vivent dans le monde? Une question qui reste en suspens, comme le journal lui-même. Comme Rivke, quelque part entre Lublin et New York.
Il reste environ 6 minutes.
Et donc, le livre s'appelle De Lublin à New York.
26, 30,
c'est un, en fait, c'est un roman.
C'est un roman.
Hein, c'est un roman de Katia Molodowski aux éditions du Canoë. Merci.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement marqué par son originalité. Il s'appelle « Géographie d'Oubli », l'auteur est Raphaël Sigal. Il est paru aux éditions Robert Laffont en 2005. Ce livre a obtenu le prix Méduse.
Ah ben c'est la clé.
C'est un texte qui est bref, mais dont l'intensité est rare.
Maintenant, ça sera plus
il explore ces silences familiaux qui se transmettent entre les générations et la manière dont l'oubli façonne ce que nous retenons ou pas de nos proches. Ce qui frappe d'emblée, c'est la forme fragmentaire choisie par Sigal. Pas de récit linéaire, mais une suite de micro-impressions, de gestes, de lieux, de phrases suspendues. Chaque fragment ouvre une brèche, comme une petite lucarne sur un instant du passé.
Alors ce titre « Géographie de l'oubli » interpelle. Quel sens faut-il lui donner ?
Il me semble que Raphaël Sigal nous invite à parcourir un territoire intime où mémoire et oubli coexistent. Une carte intérieure avec ses zones éclairées, ses régions obscures, ses repères et ses vides. Les fragments, un objet, un geste, une phrase, deviennent autant de points sur cette carte sensible où l'absence compte autant que la présence. Et la grande force du livre tient à la manière dont Sigal aborde la double nature de l'oubli. Il montre d'abord l'oubli choisi conscient, celui que sa grand-mère a mis en place pour se protéger après la Shoah. Puis il y a l'oubli subi, celui lié à la maladie d'Alzheimer, qui efface ses souvenirs malgré elle.
Ah oui. Ouais.
Quand l'auteur évoque les souvenirs de sa grand-mère, ce qui frappe, c'est leur caractère répétitif. Certaines images reviennent de manière obstinée, comme si la mémoire tournait autour de quelques scènes qu'elle ne peut ni intégrer, ni abandonner. Et un passage sur une simple paire de chaussures m'a particulièrement touchée. À 4 ans, la petite fille, qui était alors le personnage central de ce récit, reçoit des chaussures blanches pour son anniversaire. Elle la comble de joie. Toute sa vie, elle aimera les chaussures blanches. Mais dans ses propres écrits, ses chaussures deviennent rouges vernies. La couleur change, l'objet demeure. Comme si le souvenir, trop chargé, devait se transformer pour devenir supportable. Et ce vernis, littéralement, dit quelque chose de ce travail psychique. On recouvre, on filtre, on ajoute une couche qui protège ou enferme ce qui reste. C'est ici que la théorie du fantôme devient essentielle.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu peux développer?
Oui, 23. En fait, la théorie du fantôme, c'est une théorie d'Abraham et Torok, deux psychanalystes du début du XXe, qui ont éclairé très bien ce type de réapparition. Pour eux, un fantôme, ça n'est pas un souvenir, mais c'est un non-dit transmis silencieusement. Ce non-dit passe dans les générations suivantes sous forme de répétitions, de motifs récurrents, d'images obsédantes. Chez Sigam, on voit parfaitement ce phénomène. Les silences de la grand-mère ne disparaissent pas. Ils réapparaissent autrement dans la quête de son petit-fils. Le livre devient alors un geste de mise en forme, une manière de donner des contours à ce qui n'a pas trouvé de mots. Il y a un chapitre qui s'appelle « Une petite boîte » qui illustre cela avec une grande précision. Chaque objet conservé devient un noyau de sens, un réservoir de ce qui n'a pas été dit. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui importe, mais ce qu'il contient d'inexprimé. Une petite boîte, c'est un espace clos. Cela dit beaucoup de la manière dont les souvenirs ont été gardés ou scellés.
Mais si on devait recommander Géographie de l'oubli et La vie en fuite, comment les distinguer ?
Ce sont deux voies très différentes pour approcher la mémoire. La vie en fuite propose un récit continu, un personnage que l'on suit. Géographie de l'oubli propose une expérience plus sensorielle, plus fragmentaire, qui exige une réelle participation du lecteur. On ne lit pas ce livre en se faisant porter. On assemble, on ressent, on accepte les blancs. C'est une autre façon d'entrer dans les mêmes questions et il y a une voie pour chaque lecteur selon sa sensibilité. Voilà en tout cas comment moi j'ai perçu ce livre. C'est une lecture qui est profondément personnelle et j'espère que je ne trahis pas trop l'auteur en le présentant ainsi. Pour moi, Géographie de l'oubli, c'est bien plus qu'un livre sur la mémoire. C'est une expérience de lecture qui nous confronte à la tension entre la perte et la persistance du passé. Ce livre nous invite à laisser une place au silence, à reconstruire le sens nous-mêmes, à accepter que la mémoire ne soit jamais un récit ordonné, mais un paysage mouvant. C'est une lecture exigeante, mais très enrichissante. Un texte qui continue de résonner bien après avoir refermé le livre.
Alors on rappelle les références, Raphaël Sigal, Géographie de l'oubli, aux éditions Robert Laffont. Merci.
Voilà, chers amis, j'espère que vous aurez envie de livres. J'espère qu'ils nourriront votre réflexion et votre action au cours de toute l'année, là, de toute la vie. Et toujours le goût de la découverte, comme je le dis souvent, le goût de la liberté, le livre rend libre. C'est fini pour aujourd'hui dans Au fil des pages sur Radio Libertaire. Encore merci pour votre écoute, votre fidélité. On va se retrouver le mercredi 24 juin 2026 avec d'autres surprises et une invitée, Anne Defarge, pour parler de son livre consacré à la période révolutionnaire en Allemagne de 1918 à 1923. D'ici là, bonne lecture et l'équipe d'Au fil des pages sur Radio Libertaire vous souhaite ni Dieu ni maître un bel idéal de vie. À bientôt et au plaisir de partager.
Thank you. font des bars pour des loulous qui pensent qu'à boire, pour des gonzesses qui ont des guiboles qui poussent un peu à la picole. Je traîne ma guitare là où ça joue de la musique, où il y a des fous de toutes les couleurs, tous les âges, qui disent qu'on meurt quand on est sage. Je traîne mes coups de gueule, mes mots qui se battent pour des couches tard dans des apparts où il y a de la bière, des petits gâteaux, puis de la monnaie dans un chapeau. Je traîne là où la vie m'emmène. Je traîne. Je traîne mes refrains sur toutes les routes, dans des impasses, sur l'autoroute, de l'autre côté de la frontière, par temps d'orage ou par temps clair. Je traîne mes chansons au bout du monde, sur un caillou que la brume inonde, pour des marins qui ont le cœur plus grand que les eaux froides de leur océan. Je traîne mes paroles dans des prisons, pour des gros durs et leurs matons, pour scier un peu les barreaux de ces tôles rouillées comme des paquebots. Je traîne là où la vie m'emmène. Je traîne.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent.
Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous, 22e émission de cette année 2026, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Sylvie qui est aux manettes pour le moment. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et Agnès qui va être aussi aux manettes à un moment donné.
Salut.
Bonsoir Agnès. Alors l'émission c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre sur le blog émission-femmeslibres.blogspot.com. On peut réécouter les émissions, avoir le programme, mais on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Le programme de ce soir, Accord et Acri, grand format. Mademoiselle Martine et Agnieszka, le temps du féminin. Ensuite, Cap International avec des paroles fortes de survivants de la prostitution à écouter. Et puis nous aurons quelques informations. Mais place à de Accord et Acri, hashtag 21 grand format.
Yes.
Nous sommes fortes, nous sommes fiers.
Accord et Acri, 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 Accord et Acri.
We want revolution. Girls don't move.
L'une raconte des histoires sensibles de femmes exceptionnelles au quotidien, Mademoiselle Martine. L'autre, Alibas, électronique, pour dessiner des paysages fantastiques, c'est Agnieszka. Et ensemble, elles ont réinterprété le temps du féminin, le premier album de Mademoiselle Martine, dans une performance féministe exceptionnelle à la librairie Publico en avril 2026. Et ce soir, c'est ce qu'on écoute. À cor et à cri, c'est parti.
Chers amis, bonsoir. Nous sommes là avec Mademoiselle Martine et moi-même pour redessiner l'album Le temps du féminin de mon amie Mademoiselle Martine, Claire.
Oui, Claire. Claire pour les intimes.
Claire pour
bonsoir.
Les intimes. C'est une performance, c'est-à-dire ce que vous verrez ce soir ne ressemblera pas à ce que vous pourriez voir la semaine prochaine ou il y a 15 jours au prochain concert que nous ferons. C'est une réinvention de cet album, Le temps du féminin.
Ada. My name is Ada. My eyes are blue violets. Ada. Ada. My name is Ada. My heart